Pour un écrivain, il y a deux choses redoutables. La première, c'est l'échec, et la deuxième, c'est le succès.
On écrit pour que quelque chose subsiste.
Europe 1, 14h-15h, la voix est libre.
Ouvrir un livre et rentrer dedans quand c'est une belle histoire, c'est un merveilleux voyage pour pas un rond, quoi.
Nicolas Carreau.
Bonjour à tous et bienvenue dans La Voix est libre. Événement cette semaine, nous recevons le grand John Grisham, l'auteur de La Firme, de l'affaire Pélican, nous parlera de son nouveau roman Les Oubliés chez Lattès. On va pas se priver, on parlera aussi de toute son œuvre. C'est dans un instant. Ensuite, nous lirons un roman culte spécial John Grisham. Ce sera son livre préféré. Enfin, je crois, on vérifiera. Nous visiterons une bibliothèque, celle de l'écrivain Miguel Bonnefoy. Nous irons nous balader dans une librairie, comme toujours, chez Stanislas Rigaud aujourd'hui. Et ce grand enfant de Victor Dolande fermera la boutique avec son roman jeunesse, évidemment. Mais d'abord, donc, c'est l'invité. Et lequel ? La Voix est libre. C'est parti. Premier chapitre. Il a vendu plus de 300 millions de livres dans le monde en tout. Alors, vous allez me dire, c'est pas la quantité qui compte, tout à fait d'accord, mais lui, il a écrit quelques chefs-d'œuvre, Le droit de tuer, La firme, L'affaire Pélican, L'idéaliste, Le client, Le maître du jeu. Je vais pas tous les citer, c'est le grand spécialiste du thriller judiciaire avec cet art de rendre simple des points juridiques complexes et surtout d'en faire une histoire dingue. Il revient avec Les Oubliés chez Lattès, l'histoire de Cullen Post, un avocat qui travaille pour les Anges Gardiens, une association qui essaye de sortir des innocents de prison condamnés à tort. Post travaille là sur le cas de Quincy Miller, qui croupit depuis 22 ans derrière les barreaux pour un crime qu'il n'a pas commis. Et bonjour John Grisham.
Bonjour Nicolas, happy to be here.
C'est un grand honneur de vous recevoir pour la deuxième fois dans La Voix est libre, par la magie de la visioconférence cette fois. Il y a 4 ans, vous étiez venu en vrai. Entre-temps, vous avez notamment publié La Sentence l'année dernière. Il faudra qu'on en dise un mot aussi parce que quel roman sublime. Alors, Les Oubliés, c'est ce que j'appelle moi un classique Grisham. Un roman judiciaire, un innocent à faire sortir de prison, des points juridiques, un procès, bon, thriller judiciaire. Mais c'était pas le cas de vos deux derniers romans, Le cas Fitzgerald ou La Sentence dont on parlera tout à l'heure. Vous avez envie d'explorer d'autres domaines littéraires ?
Oui, absolument. Vous savez, plus je vieillis, plus j'écris, plus j'ai envie d'écrire différents types de romans. Lorsque j'écris, par exemple, le cas Fitzgerald, Camino Islands en anglais, c'est un livre sans avocat. Un livre sans juge, sans tribunal, sans procès. C'est un mystère autour d'un manuscrit volé dans une librairie et j'aime cet aspect du livre. La Sentence, par exemple, ce n'est pas un thriller judiciaire. Ce n'est pas un roman à suspense. C'est le seul livre que j'ai écrit qui se passe avant ma naissance, dans les années 40, dans le Mississippi. Et c'est une vieille histoire que j'avais entendue des années plus tôt et que j'avais eu envie d'écrire. Et c'est très différent. Ça parle de racisme. Et le mois prochain, Nicolas, je vais publier aux États-Unis un roman sur le basketball. Donc, vous voyez, j'essaie d'élargir. J'écris des livres sur le sport, des livres mystérieux. Et puis, bien sûr, toujours des romans judiciaires.
Alors, je raconte, si vous voulez bien, le début des Oubliés, votre nouveau roman. Vous inquiétez pas, c'est vraiment juste la première page. On suit le héros Cullen Post dans le couloir de la mort. Il rend visite à un client qui doit être exécuté dans les minutes qui viennent et qui entame son dernier repas, un steak frites. Je raconte pas la suite, mais c'est toujours comme ça dans vos romans, John Grisham. Le lecteur se prend toujours, dès la première page, une bonne gifle.
Bien sûr, c'est tout à fait volontaire. Je veux attraper, capturer le lecteur dès la première page. Et si le lecteur n'est pas accroché à la deuxième ou la troisième page, j'ai probablement raté quelque chose. Vous savez, c'est comme un bon film. On aime tous un bon film. Vous allez passer 2 heures à le regarder, vous voulez être pris dès le début, c'est normal. Et immédiatement, c'est comme ça que je construis le suspense. Je veux que le lecteur soit accroché immédiatement.
Alors, il y a ce personnage de Cullen Post, le héros, il est avocat, mais il a été pasteur. Et la patronne de son association, les Anges Gardiens, est chrétienne. La religion est très présente.
Oui, le livre a été inspiré par une personne qui existe, une personne réelle, l'un de mes amis qui s'appelle Jim McCloskey. Il y a 45 ans, dans le New Jersey, il allait devenir pasteur. Et il est allé dans une aumônerie de prison. Il s'occupait des détenus et il était bien certain que l'un d'entre eux était innocent. Et il a tout fait pour le sortir de là. Et il a réussi à le faire sortir. Et il s'est dit qu'il pouvait faire plus, libérer plus d'innocents. Et il m'a dit qu'il avait vécu ça comme un appel de Dieu. Pas pour être pasteur, mais pour faire sortir des innocents de prison. Et il a passé 45 ans à faire ça. Et depuis, eh bien, il a sorti 64 hommes et femmes de prison. C'est une histoire absolument incroyable et il a écrit un livre absolument remarquable sur sa vie.
Alors, dans le roman, on suit particulièrement l'affaire Quincy Miller, un noir. 22 ans plus tôt, il a divorcé, ça s'est mal passé. Il a pris un avocat qui a traité son affaire par-dessus la jambe. Quincy n'était pas très content et quelques jours plus tard, on retrouve cet avocat mort, assassiné. On accuse Quincy. Opportunément, on retrouve une lampe de poche dans ses affaires, une lampe torche tachée de sang. Mais on ne saura jamais vraiment puisque la pièce qui renfermait les preuves a brûlé. Il y a des témoins, mais ils ont été achetés et manifestement, le shérif est mouillé dans l'histoire. À l'époque, Quincy est défendu par un jeune avocat, débutant, mais qui en veut, qui se bat pour prouver l'innocence de son client, mais qui perd le procès, et il pleure même à la fin en suppliant le jury d'acquitter son client. Ça arrive, ça, des avocats qui pleurent au procès ?
Oh, bien sûr, ça arrive tout le temps. Bon, alors, il faut voir que la plupart du temps, c'est pas totalement sincère, parce que les avocats sont des acteurs, sont des comédiens devant le jury. Mais j'ai vu des avocats réellement très émus en essayant de convaincre les jurés. Dans un grand silence, c'est absolument captivant. Et ce n'est pas rare, vraiment, de voir des avocats pleurer. Vous savez, lorsque vous défendez quelqu'un en tant qu'avocat, vous finissez par très bien le connaître. Vous connaissez aussi sa famille. Et il y a un lien très étroit qui se crée avec votre client. Et si ce client risque d'être enfermé à vie ou être envoyé dans le couloir de la mort pour être exécuté, ça devient souvent parfois bouleversant. Donc, l'émotion est très présente dans un tribunal.
Alors, vous pointez aussi le problème des experts qui donc témoignent au tribunal pour parler balistique, ADN, etc. et qui, au fond, décident de qui est coupable ou non. Mais vous dites qu'il y a beaucoup d'imposteurs là-dedans, dans la réalité, pas seulement dans votre roman, à cause notamment des séries télé.
Oh, yes. Oh, it's terrible.
Ça, c'est absolument terrible à cause de la télévision. Mais aussi parce que l'on a autorisé pas mal d'imposteurs, des experts complètement incompétents qui ont le droit de témoigner dans des affaires criminelles contre la défense. Et ils peuvent témoigner sur des choses comme des analyses comparatives de cheveux, ce qui est reconnu comme quelque chose qui n'est pas fiable. Comparer un cheveu trouvé sur une scène de crime avec les cheveux de l'accusé, on sait que ce n'est pas fiable. Les traces de morsure aussi, une morsure humaine sur de la peau, sur le corps de la victime, on ne peut rien en tirer en vérité. Et plein d'autres faux artifices comme ça. Et il y a des milliers de personnes en prison à cause de ces experts qui sont des imposteurs. Ce que l'on essaie de faire en ce moment, c'est de débarrasser les tribunaux de ça et de faire appel uniquement à de véritables experts compétents, bien formés, avant de pouvoir témoigner contre quelqu'un et l'envoyer en prison pour le reste de sa vie. On a un vrai gros problème dans ce pays avec ce qu'on appelle la pseudo-science. C'est ni feu ni affaire. Mais certains juges continuent à y croire tous les jours.
Et tout ça est au cœur de l'intrigue des oubliés. C'est chez Lattès. Restez avec nous, please, John Grisham. On revient dans un instant.
14h-15h sur Europe 1. La voix est libre. Nicolas Carreau.
La Voix est libre continue toujours avec John Grisham, l'auteur de La Firme, l'affaire Pélican, etc., qui revient avec Les Oubliés chez Lattès, l'histoire d'un ancien pasteur devenu avocat et qui tente de faire sortir de prison Quincy Miller, accusé à tort d'un crime 22 ans plus tôt. Ça, c'est votre nouveau roman, on vient d'en parler, mais je voudrais quand même dire un mot de la sentence que vous avez publiée l'année dernière. Je devais vous rencontrer à cette occasion, mais bon, il y a eu le confinement, tout ça. C'est un roman incroyable et un roman total. Vous partez dans les Philippines, notamment. Vous racontez la Deuxième Guerre mondiale en plus de l'intrigue principale qui est plus classique. C'était un roman important pour vous ?
Ah oui, c'est une histoire absolument incroyable que j'ai entendue un jour, il y a des années de ça. Ça se passait dans un petit village, il y avait deux notables et l'un a tué l'autre. C'était dans le Mississippi dans les années 30. Et il l'a tué 200 fois. Il était clairement coupable et il n'a jamais expliqué pourquoi. Il n'a jamais dit un seul mot sur la raison pour laquelle il avait tué cet homme qu'il connaissait depuis très longtemps. C'était deux hommes blancs, donc il n'y avait pas d'histoire de racisme entre eux. Et donc, il y a eu un procès dans le tribunal de l'autre côté de la rue où le meurtre a été commis. Et figurez-vous que, durant tout le procès, il n'a jamais dit un seul mot. Il ne parlait ni à ses avocats, ni aux juges, absolument à personne. Et il a été condamné à mort par pendaison. Et à la dernière minute, le gouverneur est venu le voir pour assister à l'exécution. Il lui a dit, écoute, je sais que tu es quelqu'un de bien. Et je ne veux pas te voir mourir. Si tu nous dis pourquoi tu as tué cet homme, eh bien, je commue ta peine en prison à vie. Et tu ne seras pas exécuté. Et le type a répondu, non, désolé. Et donc, ils l'ont pendu. Je ne sais pas si cette histoire est vraie. Peut-être pas, mais en tout cas, c'est une histoire absolument géniale. J'ai entendu il y a des années et j'attendais depuis 20 ans. Ça faisait 20 ans que je réfléchissais à comment faire un roman de cette histoire. Et c'est finalement arrivé avec la sentence.
John, vous êtes, je l'ai dit, l'un des écrivains les plus connus au monde. Alors, pardon pour cette question, mais ça fait quoi? Je veux dire, est-ce que quand vous buvez votre café le matin très tôt, je sais que vous vous levez très tôt, est-ce que vous y pensez? Est-ce que c'est une bénédiction ou est-ce que c'est une malédiction d'ailleurs?
It's not a curse at all. It's a wonderful job.
C'est pas du tout une malédiction. C'est un travail absolument génial. Ça fait 30 ans que je fais ça et j'adore toujours. Vous savez, il y a 30 ans, je ne savais pas que j'allais écrire 45 livres. Et je ne sais pas combien de livres je vais écrire dans les 20 prochaines années. Et je préfère ne pas trop y penser. Alors, en buvant mon café ce matin, ce que j'ai fait, d'abord, j'ai bu mon café. Et puis, j'ai regardé ma maison ici en Virginie et mon bureau, qui est juste derrière la maison, et à 7h30, j'ai commencé à écrire. C'est ce que je fais chaque matin.
Et vous fumez des cigares?
Non, j'arrive pas à arrêter. Mais je n'ai pas fumé de cigares depuis 3 mois. Je sais pas d'arrêter, c'est juste que je n'en achète pas, parce que ma femme veut que j'arrête. Bon. Mais bon, bref, je bois mon café le matin, et je suis à la maison tout le temps. Déjà avec ma femme, donc, vous savez, c'est vraiment la belle vie, et je suis quelqu'un de très chanceux.
Ce que je voulais dire avec la malédiction, c'est est-ce que ça crée une sorte de pression pour écrire? Parce que c'est une forme de pouvoir.
Non, je ne ressens pas de pression. Il y a le pouvoir seulement d'être capable de délivrer un message qui mettra en lumière ou permettra d'alerter sur tel ou tel problème, comme la peine de mort ou les condamnés à tort ou toutes les autres choses sur lesquelles j'écris. Donc, c'est bien de pouvoir aider à faire prendre conscience de ces problèmes. Mais ça n'a rien d'intimidant. C'est juste quelque chose que j'adore faire tous les jours.
Merci John Grisham. Et je rappelle donc Les Oubliés, c'est chez Lattès. Superbe, restez avec nous s'il vous plaît. Dans un instant, c'est le livre culte et j'ai voulu vous faire plaisir. On va voir si j'ai réussi.
La Voix est livre. Nicolas Carreau.
Retour dans La Voix est libre, toujours avec John Grisham. Et ouais, il est l'heure du livre culte et j'ai choisi Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur d'Harper Lee. Je crois que ce roman compte beaucoup pour vous. John Grisham, vous nous direz pourquoi dans un instant. Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur, c'est l'histoire de Scott. Scott, c'est un surnom, son vrai nom c'est Jean Louise. C'est une jeune fille de 13 ans, nous sommes en 1933 à Maycomb, une petite ville en Alabama. C'est l'été, elle traîne un peu avec son frère Jem, mais Jem et Scott ont une particularité, leur père Atticus Finch est avocat. C'est un type bien, Atticus, très intègre, très droit. Un jour, il doit défendre Tom Robinson, un noir accusé d'avoir violé une blanche. Autant vous dire que dans les années 30 en Alabama, vous pouvez remplacé tout de suite accusé par condamné. Pas facile pour les enfants. Leur père, pourtant très respecté, se fait insulter par certains villageois, les enfants aussi, mais Atticus tient bon. Publié en 1960, prix Pulitzer en 61, adaptation au cinéma avec Gregory Peck dans le rôle d'Atticus Finch, c'est l'un des livres les plus vendus au monde. C'est d'abord une réflexion sur la différence, sur le racisme avec ce vrai faux regard d'enfant. C'est aussi un livre sur la non-violence. Le titre « Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur » vient d'une scène du roman. Les enfants ont reçu de petites carabines à plomb en cadeau. Atticus leur dit qu'ils peuvent tirer sur des boîtes de concert pour s'amuser, mais de surtout, surtout, ne pas tirer sur les oiseaux moqueurs, une espèce d'oiseau qui ne fait que chanter, qui incarne un peu l'innocence. On écoute la première page, lue par Philippe Dussault.
« j'aime aller sur ses 13 ans quand il se fit une vilaine fracture au coude, mais aussitôt sa blessure cicatrisée et apaisée ses craintes de ne jamais pouvoir jouer au football, il ne s'en préoccupa plus guère. Son bras gauche en restant un petit peu plus court que le droit, quand il se tenait debout ou qu'il marchait, le dos de sa main formait un angle droit avec son corps, le pouce parallèle à la cuisse. Cependant, il s'en moquait. Du moment qu'il pouvait faire une passe ou renvoyer un ballon, bien des années plus tard, il nous arriva de discuter des événements qui avaient conduit à cet accident. Je maintenais que les Ewell en étaient entièrement responsables, mais Jem, de 4 ans mon aîné, prétendait que tout avait commencé avant. L'été où Dill se joignit à nous et nous mit en tête l'idée de faire sortir Boo Radley. À quoi je répondais que s'il tenait à remonter aux origines de l'événement, tout avait vraiment commencé avec le général Andrew Jackson. Si celui-ci n'avait pas croqué les Creeks dans leur creek, Simon Finch n'aurait jamais remonté l'Alabama et, dans ce cas, où serions-nous? Beaucoup trop grand pour régler ce différend à coups de poing, nous consultions Atticus et notre père disait que nous avions tous les deux raison. En bon sudiste, certains membres de notre famille déploraient de ne pas compter d'ancêtres officiels dans aucun des deux camps de la bataille d'Hastings. Nous devions nous rabattre sur Simon Finch, apothicaire de Cornouailles, trappeur à 16 heures, dont la piété n'avait d'égal que l'avarice. Irrité par les persécutions qu'en Angleterre leurs frères plus libéraux faisaient subir à ceux qui se nommaient méthodistes, dont lui-même se réclamait, Simon traversa l'Atlantique en direction de Philadelphie, pour continuer ensuite sur la Jamaïque, puis remonter vers Mobile, et de là jusqu'à Saint Stephens. Respectueux des critiques de John Wesley contre le flot de paroles suscitées par le commerce, il fit fortune en tant que médecin, finissant néanmoins par céder à la tentation de ne plus travailler pour la gloire de Dieu, mais pour l'accumulation d'or et de coûteux équipages. Ayant aussi oublié les préceptes de notre maître sur la possession de biens humains, il acheta 3 esclaves et, avec leur aide, créa une propriété sur la rive de l'Alabama, à quelques 60 km en amont de Saint Stephen. Il ne remit les pieds qu'une fois dans cette ville pour y trouver une femme, avec laquelle il fonda une lignée où le nombre des filles prédominait nettement. Il atteignit un âge canonique et mourut riche.
C'était la première page de Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur, lu par Philippe Dussault. Merci à lui. John Grisham, vous êtes toujours là. Pourquoi ce livre a-t-il tant compté pour vous?
J'ai lu pour la première fois Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur lorsque j'avais quelque chose comme 15 ans. Et vous savez, le livre a eu un énorme impact sur moi en tant que jeune homme, à cause du courage d'Atticus Finch, le courage de cet avocat d'une petite ville. Tout le livre est brillant. Je l'ai relu plusieurs fois et j'ai dû le relire en classe. Le livre fait partie de l'éducation dans ce pays, particulièrement dans le sud. Vous savez, les professeurs vous demandent de lire, donc on l'a tous lu. J'ai dû lire le livre 4-5 fois en tout. C'est vraiment l'un de mes préférés.
À suivre, visite de bibliothèque, rendez-vous chez l'écrivain Miguel Bonnefoy. À tout de suite.
14h-15h sur Europe 1, La Voix est libre. Nicolas Carreau.
La Voix est libre continue, nouvelle page. On sort un peu du studio à la rencontre de Miguel Bonnefoy. L'écrivain franco-vénézuélien a fait beaucoup de bruit lors de la dernière rentrée littéraire avec son dernier roman, Héritage. On le présente souvent comme l'héritier de Garcia Marquez. Allons voir si on trouve 100 ans de solitude dans la bibliothèque. Bonjour Miguel Bonnefoy.
Bonjour.
Merci de nous recevoir.
Merci.
Je vais vous demander dans un instant comment est rangée votre bibliothèque. Mais juste avant, il faut que vous m'expliquiez pourquoi, quand je vous ai demandé si je pouvais venir chez vous pour regarder dans votre bibliothèque, vous m'avez dit « Mais non, mais ma bibliothèque, elle n'existe pas chez moi parce que je bouge tout le temps et c'est pas vraiment mes livres qui sont là. Enfin, c'est ceux du moment. Mais est-ce que vous pouvez m'expliquer ça? Comment vous rangez vos livres et où est votre bibliothèque ?»
J'aimerais beaucoup vous donner un endroit géographique où est ma bibliothèque. Il se trouve qu'elle est éparpillée un peu partout, un peu chez ma mère à Neudy, un peu chez ma grand-mère dans une cave, dans des cartons qui prennent l'humidité, un peu à Caracas, un petit peu aussi chez un cousin, et une autre partie ici. Mais je dois reconnaître, comme je suis quelqu'un qui voyage énormément, et je n'ai jamais réellement collectionné des choses, je n'ai jamais conservé des choses, je vis avec très peu de choses, donc je me débarrasse très vite des livres. Et finalement, en fait, ma bibliothèque est dans la tête, dans le cœur, pas réellement au niveau géographique. Dans la bibliothèque qui est là, c'est une bibliothèque qui est très hétéroclite, il y a un an de vie à peu près. Et puis une partie aussi, c'est la bibliothèque d'Alexandre Faure, le propriétaire, qui lui aussi est écrivain, donc fatalement...
Là, on est dans une toute petite, petite maison dans Paris, très charmante, un peu biscornue, très, très, très jolie. Vous avez... J'ai annoncé, avant cette séquence, qu'on vous comparait souvent à Garcia Marquez. Est-ce que c'est une comparaison qui vous agace? Est-ce que vous la prenez? Est-ce que vous êtes trop humble pour l'accepter? Ou est-ce qu'au contraire, vous considérez que vous n'avez rien à voir avec lui et qu'il faut arrêter avec cette histoire? Oui. Ou est-ce que vous êtes son fils spirituel? Est-ce que malgré l'éclatement de votre bibliothèque, on a quand même quelques Garcia Marquez ici et là?
On en a. On en a d'ailleurs dans les deux langues. On en a à la fois en espagnol et aussi en français. Et on pourra en parler si vous voulez. Non, moi je suis toujours très honoré, très flatté lorsqu'on me dit qu'il y a des correspondances, qu'il y a des porosités, qu'il y a des connivences entre mon style et le style de Garcia Marquez, parce que c'est le plus grand, il n'y a pas au-dessus. Mais moi j'ai l'humilité de croire que je ne me mesure pas du tout à lui, que je ne suis pas du tout à sa hauteur, que j'y parviendrai peut-être pas, pour deux raisons. D'abord, parce que lui est un véritable écrivain engagé, qui était en train de grandir son œuvre pendant la guerre froide, et du coup il y avait le côté des gentils, le côté des méchants, il a su le prendre et il a mis sa plume à ce service. Et d'un autre côté, parce qu'il avait une rapidité que je n'ai pas, c'est-à-dire qu'il a écrit 100 ans de solitude en 14 mois, il a écrit L'amour au temps du choléra en 2 ans, il a écrit Crónica de una muerte anunciada en quelques semaines, absolument. Et donc c'est étonnant de se rendre compte qu'une telle rapidité avec une telle fluidité dans le style, mais aussi une telle justesse dans les mots. C'est-à-dire son premier éditeur argentin, lorsqu'il a reçu 100 ans de solitude, il disait « C'est fou, à chaque fois que je finis une phrase, tu tombes juste. » Ce qui est rare. Normalement, tu avais un petit trébuchement, tu vois, ça finit en queue de boudin, ainsi, tu vois, tu sens en effet qu'il s'essouffle ou il se répète. Non, pas une seule répétition sur 500 pages. Et tout ça écrit en 14 mois. Comme si un ange s'était assis comme ça sur son épaule et lui avait murmuré à l'oreille, lui dicté à l'oreille le livre.
Et vous connaissez quelques passages par cœur ?
De Garcia Marquez ?
Ouais.
Eh bien, figurez-vous que non.
Même pas l'incipit de 100 ans de solitude.
Alors absolument, je connais l'incipit de 100 ans de solitude, mais ça, c'est presque une sorte de lexicalisation universelle au point que c'est comme réciter une comptine, tu vois, ou réciter un poème de Prévert. Enfin, ça, c'est un truc que tu sais de base, c'est-à-dire tu nais avec.
Ça donne quoi ?
Ça donne, en espagnol, « Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordarse aquella tarde remota en la que su padre lo llevó a conocer el hielo. » Bien des années plus tard, devant le peloton de fusillement, le colonel Aureliano Buendía devait se souvenir de cette après-midi lointaine où son père l'emmena faire connaissance avec la glace. Sans doute, non seulement le plus beau des incipits, la plus belle première phrase, la plus belle aube d'un livre, mais en plus, c'est la première prolepse.
Je rappelle que votre langue maternelle, c'est l'espagnol, mais que vous écrivez en français,
oui.
Et vous lisez donc dans les deux langues.
Absolument, absolument.
Comment vous choisissez que vous allez lire tel livre? Alors évidemment, en fonction de la nationalité de l'écrivain, j'imagine, mais pour un écrivain américain, par exemple, vous prenez la traduction espagnole, anglaise d'ailleurs, ou française?
Eh bien, pour un écrivain américain ou britannique, ce sera directement en français, parce que mon anglais n'est pas suffisamment bon. Moi, j'ai vécu un temps, longtemps, au Portugal, mais je trouve que mon portugais n'est pas suffisamment bon non plus pour pouvoir lire Fernando Pessoa ou pouvoir lire José Saramago, comme ça, directement en portugais. En espagnol, par contre, oui, je me sens beaucoup plus à l'aise, bien entendu, puisque c'est ma langue, et que ce soit Garcia Marquez, que ce soit en effet Cortázar, que ce soit ici et là, je ne sais pas, Ludovico Silva, par exemple, avec Belleza y Revolución, qui est très beau, ou même Rubén Darío, le nicaragüense, le poète de Nicaragua, Rubén Darío, qui a écrit Azul, ça, bien sûr, directement en espagnol. Mais il faut aussi entendre la langue, quoi. C'est un truc qui a un avant et après, quoi.
Alors, Ludovico Silva, c'est qui, c'est quoi ?
C'est un Vénézuélien, Ludovico Silva, qui est un essayiste, romancier, poète, linguiste, qui a fait énormément de choses, qui s'est beaucoup engagé pendant les années 60 en politique dans la Sierra contre la dictature de Marcos Pérez Jiménez, et qui était un homme, il semblerait, d'une intelligence vive, d'une rapidité d'une lucidité comme ça, d'un rebond extraordinaire. Et il a écrit ce livre que je trouve assez beau, peut-être qui est juste une sorte d'immense anthologie de différents articles et différentes conférences qu'il a données ici et là, dans lesquelles il essaye de dresser des ponts entre les révolutions esthétiques, les révolutions artistiques et les révolutions sociales. Dire on ne peut pas avoir une révolution sociale sans une révolution artistique, tu vois. Par exemple, je te donne un exemple, pardon d'être long là-dessus, mais je trouve que c'est intéressant. Et le soviétisme, peut-être, a pu avoir cet impact mondial parce qu'il y avait une sorte de signature graphique, parce qu'il y avait une firme, parce qu'il y avait une griffe qu'on reconnaissait aussitôt, que ce soit dans les affiches, que ce soit dans la littérature, que ce soit en musique, que ce soit dans les films. Ils avaient réussi à créer une sorte de AOC de l'esthétique qui était l'esthétique soviétique. Pareil pour la révolution cubaine. Le triomphe de la révolution, on voit très bien ces types de la Sierra, le Che, Fidel Castro, les barbes, tu vois, on voit absolument de quoi il s'agit. Or, il y a certaines révolutions, certains printemps, qui se sont faits à un niveau social, mais qui n'ont pas eu cet impact. Et lui, ce qu'il explique, c'est qu'il leur a manqué cette révolution esthétique qui l'accompagne, qui permet en fait, en une seule couleur, en un seul signe, en une seule ligne, de dire « Ah oui, je vois très bien, c'est ça ».
De l'importance de l'art dans une révolution.
Absolument, absolument.
Qui porte la révolution.
Qui porte la révolution.
Et Rubén Darío, alors, Azul y Poemas?
Exactement. Azul veut dire bleu en espagnol. Et Rubén Darío est un écrivain de Nicaragua. Et là où je trouve que c'est hyper intéressant, c'est que ce sont des écrivains donc hispanophones, comme aujourd'hui en France, on peut parler des écrivains francophones, c'est-à-dire des écrivains, par exemple, de la négritude, avec Léopold Sédar Senghor, avec Damas, avec Diop, avec Bourguiba, avec Aimé Césaire, c'est avec Maryse Condé. Et qui, en utilisant la langue du colon, sont parvenus cependant à la fouiller, à la ramifier, à la diluer, à lui donner en fait une épaisseur, à lui donner une profondeur et à lui créer un syncrétisme et un croissement avec leur propre dialecte qui donne du coup à la langue française un double avantage, qui lui donne, tu vois, un double fond, qui lui donne quelque chose de plus. Même spectacle pour Rubén Darío ou pour Juan Rulfo comme ça ou pour César Vallejo, qui ont été vraiment les poètes de avant la génération de García Márquez. Donc, c'est des hommes qui sont nés dans les années 10 et fin 19e, et qui, du coup, sortaient des indépendances, qui avaient encore la langue du colon espagnol et qui avaient besoin de s'affranchir de cette langue tout en la conservant. Et Rubén Darío, Azul, est hyper important. Ce sont des poèmes qui sont essentiels parce que, justement, en fait, ils essayent de donner à un espagnol une luxuriance, un baroque, une jungle que l'espagnol d'Espagne n'avait pas dans le siècle d'or. Si bien que les professeurs émérites des académies et des universités espagnoles à Madrid, lorsqu'ils lisaient Azul de Rubén Darío, disaient « Je redécouvre ma propre langue ». Comme peut-être le disaient en effet quelques Français en lisant la poésie noire de Léopold Sédar Senghor en disant « Je redécouvre ma langue ».
Comment vous l'avez découvert? Comment vous êtes allé chercher l'espagnol? Parce que je sais que vous avez voyagé toute votre jeunesse, vous avez suivi vos parents un peu partout dans le monde. Ceux-là, Rubén Darío, Ludovico Silva, vous êtes allé les chercher? C'est vos parents qui vous les ont proposés? Comment ça s'est passé?
Eh bien, il y a eu les deux. D'un côté, Rubén Darío, c'est clairement ma mère qui me l'a mis entre les mains parce que ma mère a un côté très caribéen dans ses lectures. Elle va moins vers le sud, bien que ce soit une grande borgésienne, c'est ça, mais elle va moins vers le sud, elle s'est mariée avec un Chilien, donc c'est ironique. Quoi qu'il en soit, Rubén Darío étant très, très caribéen, elle est restée là-dedans et elle me chantait un des premiers poèmes de Rubén Darío lorsque j'étais enfant, « Este un rey que tenía », et qui en effet, voilà, une chanson, une sorte de comptine comme ça, qu'elle avait repris.
Ça donne quoi ?
Este era un rey que tenía un palacio de diamantes. Bon, bien entendu, ma voix est travaillée. Hein,
oui,
j'ai une fille, heureusement, donc tout ça, c'est pas inné.
Et vous chantez à votre fille du Rubén Darío ?
Voilà, je chante du Rubén Darío, bien entendu, mais je chante aussi beaucoup de salsa cubaine. Pour être tout à fait honnête, je lui chante Dos Gardenias para ti, pour l'endormir. Donc, c'est une chanson de Ibrahim Ferrer. Dos gardenias para ti. Enfin,
je vais écouter un petit extrait en même temps.
Dos gardenias para ti, con ella quiero decir, te quiero, te adoro, mi vida. Ponle todas tu atención, que serán tu corazón y el mío.
dos gardenias para ti.
On en avait déjà parlé quand vous étiez venu parler de Héritage, votre dernier roman, mais pourquoi vous écrivez en français, sachant que votre langue maternelle, c'est l'espagnol? Vous êtes bilingue, évidemment, vous êtes franco-vénézuélien, mais quand même, qu'est-ce qui vous... Vous préférez ces armes-là? Vous préférez le français pour écrire?
Oui, c'est intéressant. D'une part, sans doute, par du vécu, c'est-à-dire d'une façon empirique. Moi, j'ai été de lycée français en lycée français, donc fatalement, on m'a appris à penser en français, on m'a appris à utiliser la langue pour passer d'une idée abstraite et de la mettre en mots. On m'a appris du coup que ce prisme-là, ce kaléidoscope en français, et l'espagnol, en effet, a été une langue beaucoup plus familiale, beaucoup plus informelle. Donc, fatalement, il est beaucoup plus simple pour moi aujourd'hui d'écrire en français, que j'intellectualise beaucoup plus que l'espagnol, qui tout à coup, c'est plus la langue du cœur. Et puis, après, un niveau aussi de stratégie éditoriale, entre guillemets. C'est-à-dire que si tu publies en espagnol, tu publies au Venezuela. Et au Venezuela, il y a moins de puissance éditoriale qu'en France. Donc, c'est un cheval de Troie.
Il y a beaucoup de mythologie aussi, non ? J'ai vu les Métamorphoses.
Oui, absolument. Merci beaucoup. Eh bien, oui, c'est une belle édition. J'avais craqué en sortant d'un entretien. J'étais passé par une librairie. J'avais trouvé ce livre et je m'étais dit que c'était une des belles éditions des Métamorphoses d'Ovide, dans lesquelles non seulement tu pouvais avoir le texte intégral, mais également avec des gravures et des tableaux essentiellement de la Renaissance, dont on trouve d'ailleurs, que ce soit Donatello, que ce soit Giotto, que ce soit Giulio Romano, et que ce soit Raphaël, Michel-Ange ou Da Vinci. Et ils sont dans la vie des artistes de Vasari, de Giorgio Vasari, et donc il y a une correspondance avec cette édition.
Mais on va chercher de la matière dans la mythologie quand on est écrivain.
Clairement.
Tous les récits, même aujourd'hui, découlent de cela, finalement.
Absolument. Absolument. Si bien que il y a par exemple un bel exemple qu'on pourrait utiliser dans les Métamorphoses d'Ovide. Je suis tombé sur le mythe de Pyram et Thisbé, qui raconte l'histoire d'amour entre deux adolescents. Leur famille s'oppose à leur amour. Ils décident, de se retrouver tous les soirs près d'un petit muret où il y a une fente. Et alors ils se murmurent des confidences comme ça, pleines d'érotisme, par cette petite fente de l'amour du mur. Ils se donnent rendez-vous une semaine plus tard, comme ça, dans un crépuscule, sous un clair de lune. Thisbé arrive avant, laisse tomber son châle derrière elle en courant parce qu'elle est précipitée et empressée par l'amour. Et un lion passe par là, qui avait mangé des mûres juste avant et qui avait la gueule pleine de rouge. Au moment où elle voit le châle, joue un peu avec lui et le laisse taché de rouge, taché de mûres. Et lorsque Pyram arrive, voyant ce petit châle par terre, pense que le lion a mangé son aimé, va sous le mûrier, sort son épée, se suicide, et au moment de mourir, en ouvrant à peine les yeux avant la mort, il voit en effet Thisbé qui accourt à lui, qui lui dit « Non, malheureux, qu'as-tu fait? Moi, je ne peux pas vivre dans ce monde sans toi. » Elle prend la même épée et se suicide à son tour.
C'est Roméo et Juliette.
Absolument. Curieusement, et on s'imagine que Shakespeare a sans doute dû lire les Métamorphoses d'Ovide. Il est tombé sur Pyram et Thisbé, y a vu une idée, il y a vu une histoire d'amour assez belle qu'il aurait pu placer dans Les Amants de Vérone, et tout à coup, 1500 ans plus tard, écrit Roméo et Juliette.
Mais c'est désespérant de se dire que tout a déjà été raconté, ou au contraire, c'est un grand espoir de se dire que tout peut être re-raconté différemment?
C'est une belle question. Moi, pour le coup, je trouve qu'au contraire, c'est magnifique de se rendre compte que tu as la possibilité d'avoir des sources qui n'appartiennent à personne, qui ne sont le privilège de personne, sur lesquelles tu peux parfaitement aller toi-même et saisir des choses, de t'abreuver et tout à coup pouvoir le ressortir à ta façon. De toute façon, l'époque, la modernité, la lumière violente de la gloire change suffisamment pour pouvoir se permettre de faire des projections de miroirs différentes.
Qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont des carnets de Moleskine? Ce sont les vôtres?
Je vois que vous
on peut regarder
fouillez, bien sûr, absolument. Vous fouillez dans les bons endroits.
Ils ont voyagé.
Oui.
Ils sont rescotchés et tout.
Bah oui, parce qu'en fait, ils ont beaucoup voyagé ici et là et ont été un peu partout. Là, bah, allez-y, franchement, ouvrez ouvertement.
Oui. Ils sont bien noircis. Vous prenez des notes sans arrêt. Vous avez toujours un carnet sur vous?
Toujours, oui, toujours, absolument. Mais là, c'est marrant. Enfin, c'est vraiment avec vous que j'ouvre pour la première fois depuis bien des années. Et oui. Allez savoir.
Oui, mais il y a carrément là une petite nouvelle écrite, enfin je sais pas trop, mais c'est des phrases, quoi. C'est pas juste des petites notes comme ça posées, quoi.
Oui, il y a des tentatives de texte, mais ce sont aussi des passages avortés, ce sont des pages effritées. Enfin, le temps a fini par les vieillir et je pense que le style est vieilli aussi. Hein. Si on fait ma vie, c'est très maladroit.
Ah, vous n'aimez pas relire vos écrits
Il faudrait voir. En fait, je reconnais en effet que ça fait très longtemps que je ne les ai pas rouverts. Peut-être qu'il peut y avoir quelques graines et greffes.
Une colère gronde soulignée au milieu de d'autres textes.
À savoir, hein, sans doute à l'intérieur de moi-même.
Merci beaucoup, Miguel Bonnefoy, pour votre accueil.
Merci bien, merci bien. Moi, je ne faisais que m'échauffer, mais tout est encore à dire.
On reviendra.
Absolument.
Merci beaucoup, Miguel.
Merci à vous.
De retour en studio, et je rappelle le titre du dernier roman de Miguel Bonnefoy, Héritage, c'est chez Rivage. John Grisham, vous êtes toujours avec nous. Comment sont rangés les livres chez vous ?
Badly.
Mal, très mal. Ils sont très mal rangés. Il y en a absolument partout. Il y a toute une étagère de livres sur Paris et des livres de cuisine française. Ça, c'est une étagère, vous voyez. Et une étagère où j'essaie de garder des livres de littérature populaire que j'aime lire. Là, il y a une étagère dans mon bureau qui est consacrée au baseball et des livres de sport. Donc, je peux retrouver à peu près tout ce que je cherche. Mais nous avons tellement de livres, les gens nous offrent beaucoup de livres, nous en achetons beaucoup, donc ils sont absolument partout dans la maison et on adore ça. Nos enfants ont grandi dans cette atmosphère avec des livres partout, ça fait partie du décor de la maison, ils sont absolument partout. On en a peut-être un peu trop, mais on les garde tous.
Et est-ce que vous avez des livres anciens ? Est-ce que vous êtes collectionneur ?
Je collectionne les livres anciens, oui. Les premières éditions du XXe siècle, principalement des écrivains américains, des gens comme Faulkner, Hemingway, Steinbeck, Fitzgerald, Truman Capote, William Styron, Mark Twain. Mais je collectionne les livres anciens depuis 30 ans, donc en 30 ans, j'en ai quelques-uns, évidemment. Et j'ai quelques vendeurs que je connais un petit peu partout et qui me cherchent des premières éditions de Faulkner, d'Hemingway ou de Steinbeck. Donc oui, je suis un collectionneur plutôt actif.
Restez encore un petit peu avec nous, John Grisham. On part dans un instant chez un grand collectionneur aussi, Stanislas Rigaud, librairie Lamartine à Paris.
La Voix est libre.
Nicolas Caro.
Retour de La Voix est libre. Il est l'heure de rendre visite à un libraire, direction la librairie Lamartine à Paris avec Stanislas Rigaud. Et on n'a pas fait exprès, mais on va encore parler de John Grisham. Bonjour Stanislas Rigaud.
Bonjour Nicolas.
Merci de nous recevoir à la librairie Lamartine. Trois livres, que des polars aujourd'hui. Et vous commencez, comme par hasard, mais c'est vraiment un hasard en plus.
C'est vraiment un hasard.
Par John Grisham. Pas celui qui sort en ce moment, mais le dernier que j'avais adoré, La Sentence, et qui sort en poche.
Oui, voilà. La Sentence qui vient d'arriver au livre de poche et qui est un formidable Grisham et qui, bien au-delà d'être un formidable Grisham, est tout simplement un très grand roman américain. On part en 46 dans le sud des États-Unis. On va rencontrer un homme qui rentre de la guerre, qui est un héros de la guerre du Pacifique et qui est revenu s'installer chez lui, son domaine. C'est un propriétaire dans un village où il connaît tout le monde. Et le jour se lève et cet homme se dirige benoîtement vers l'église du village et va mettre trois balles dans la tête du curé qui est là, qui connaît depuis 10 ans, et il se laisse arrêter. Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, je vous laisse vous le découvrir, sachant que forcément la réponse n'intervient que quasiment à l'avant-dernière page de ce livre qui a beaucoup d'ampleur. En fait, on a bien évidemment des procès, c'est Grisham, mais il y a en plus l'histoire américaine derrière, notamment l'histoire de la guerre du Pacifique. C'est remarquable.
Dans les Philippines et tout, c'est incroyable. Et quand on l'arrête juste après le meurtre, il plaide quand même non coupable. Et on saura pourquoi au fur et à mesure.
On saura pour... peut-être.
Peut-être. City of Windows de Robert Pobi, c'est chez Point Seuil.
Voilà, alors City of Windows, c'est un peu l'inverse du La Sentence, c'est-à-dire que là, c'est ultra rapide, ultra refermé, ultra condensé. New York, tempête de neige, page 3, un agent du FBI se fait abattre par un sniper, page 4, tout le monde court et tout le monde va courir jusqu'à la dernière page. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire. C'est un super divertissement. Alors, je ne vous vends pas Proust, hein, mais c'est vraiment sympa. Ça va à 200 à l'heure. Le héros, qui est lourdement handicapé, est très original, souvent drôle, et avec cet humour typique un peu des films des années 90 ou des, voilà, de ces polars ou de la bonne réplique en fait, et cette bonne réplique ne désamorce pas pour autant le suspense. Et cerise sur le gâteau, le livre qui a été écrit avant prend quand même un écho assez fascinant sur l'actualité américaine d'aujourd'hui en fait, mais j'en dis pas plus.
Je me rappelle, vous nous aviez parlé quand il est sorti en grand format City of Windows de Robert Pobby chez Point Seuil. Et alors ça, c'était les deux poches. Et là, vous avez votre gros coup de cœur que j'aime beaucoup aussi chez Albin Michel, qui s'appelle Fabiano Massimi. Ça, c'est le nom de l'auteur. L'Ange de Munich.
Oui, alors là, attention, parce que ça pourrait bien être un des grands polars de cette année 2021. On part à Munich, on part en 1931. Et c'est l'histoire de deux flics qui sont appelés par leur chef pour aller constater un meurtre qui vient d'avoir lieu au fin fond de Munich. Ok, bon, si ce n'est que leur chef leur dit, dans 8 heures, cette affaire, elle est pliée. Dans 8 heures, soit elle est classée, soit vous avez trouvé qui est le coupable, mais après, on n'en parle plus. Ce qui est un petit peu intriguant. Ce qui est en plus extrêmement intriguant, c'est qu'on leur demande de suivre le chauffeur du commissaire général qui va les emmener à un endroit qu'ils ne savent pas où c'est. Et là, ils arrivent dans une superbe maison, ils frappent. Et qu'est-ce qui se passe? C'est la maison de Adolf Hitler. Et la jeune femme qu'on a retrouvée morte, peut-être suicidée, est la nièce d'Adolf Hitler. Et c'est ainsi que commence ce livre. Donc on a un super polar. C'est brillamment écrit. Mais en plus, il y a cette ambiance de 1931 parfaitement rendu, c'est-à-dire le nazisme qui monte et qui monte et qui monte. On va croiser tout ce qui va bien. Il y a Goebbels dans les pages. Enfin, c'est tendu. Personnage hyper attachant, le suspense qui se replie sur nous, autant dire que c'est une formidable surprise. La veine italienne qui nous avait déjà délivré le formidable cuisinière d'Hitler il y a 2 ans de ça, chez Albin Michel, nous frappe une fois de plus avec effectivement ce Fabiano Massimi et l'Ange de Munich à découvrir de toute urgence.
Et c'est une histoire vraie en plus cette histoire.
Et c'est une histoire vraie.
Mais romancée.
Voilà, je n'en dis pas plus.
L'Ange de Munich, chez Albin Michel de Fabiano Massimi. Merci beaucoup Stanislas Rigaud.
Merci Nicolas.
À bientôt.
À bientôt.
Europe 1.
Retour à Europe 1, toujours avec John Grisham. Et nous sommes rejoints dans un instant par ce grand enfant de Victor Dolande et son conseil littérature jeunesse. À tout de suite.
Il était une fois.
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 Et comme chaque semaine, on retrouve Victor Dolande et son conseil littérature jeunesse. Bonjour Victor.
Bonjour Nicolas.
Aujourd'hui, alors à l'occasion de la semaine de la presse jeunesse en librairie, qui sera organisée du 23 au 28 mars, c'est-à-dire de mardi à dimanche, vous avez choisi de nous présenter le magazine Topo.
Oui, c'est un magazine destiné aux adolescents et plus généralement aux moins de 20 ans, qui existe depuis près de 5 ans. Un numéro en gros tous les 2 mois qui a la particularité de revisiter l'actualité en bande dessinée. Dans le dernier numéro de mars-avril, vous trouverez un superbe reportage sur l'Alaska. On y découvre notamment l'histoire du 49e État américain et ses problèmes plus récents avec la fonte bien évidemment très préoccupante des glaces. Dans Topo, vous lirez aussi une bande dessinée sur les jeux vidéo de plus en plus réalistes qui posent beaucoup de questions. Ou encore tout un article croqué sur les poils. Oui, oui, les poils. Les journalistes de Topo sont partis de ce constat que 51% des jeunes de moins de 25 ans, quand même, s'épilent intégralement le sexe. Donc comme une injonction de la société à débarrasser nos corps de tous ces poils. L'idée de ce sujet, bien évidemment, de rappeler que chacun fait ce qu'il veut de son corps.
Et c'est quoi l'idée générale du magazine, ce qu'on appelle la promesse éditoriale?
Alors, c'est surtout de réinformer correctement les adolescents ou les jeunes adultes, comme l'explique la rédactrice en chef de Topo, Laurence Frédé.
En fait, on cherchait à réconcilier les ados avec l'information, les jeunes. Et avec la propagation des théories du complot sur tous les réseaux sociaux, on s'est dit qu'il fallait vraiment apprendre aux jeunes à décrypter l'information. C'est une revue de reportage en bande dessinée. Il y a 144 pages de bande dessinée où on associe systématiquement un journaliste à un dessinateur. Et ce qui nous intéresse, c'est qu'ils confrontent leurs points de vue et font dialoguer leur pratique. Le reportage dessiné, c'est une des clés qu'on donne aux adolescents pour développer leur sens critique.
Et c'est important avec effectivement toutes les fake news auxquelles ils peuvent prêter un petit peu le flanc ces derniers temps. Vous trouverez aussi dans ce dernier numéro de Topo un article sur l'ascension du mont le plus haut d'Afrique. J'ai nommé bien sûr le Kilimandjaro, ou pourquoi les néonicotinoïdes ont été sauvés de justesse par les députés de l'Assemblée nationale après avoir été pourtant enterrés. Bref, des sujets, vous avez vu, Nicolas, très divers, avec de superbes illustrations, ça donne envie.
C'est très bien fait et en prime, c'est sans aucune publicité. Ça n'est financé que par les lecteurs, donc soutenez-les. Et surtout, si vos ados passent un peu trop de temps sur les réseaux sociaux, essayez de leur offrir un numéro, ça leur changera peut-être un petit peu les idées.
On rappelle le titre, Topo, 12,50€, le numéro de mars-avril que vous pouvez retrouver dans les librairies, donc. Et puis, vous m'avez dit sur commande directe,
oui, sur le site. Exactement, sur le site Topo, vous le trouverez très facilement et vous ferez un bel achat.
Merci Victor, et thank you very much, John Grisham.
Thank you.
Merci, prenez soin de vous Nicolas, à plus tard, ciao.
Et je rappelle donc les oubliés, c'est chez Lattès, un grand John Grisham. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, au revoir.
Europe 1.
C'était la dernière page de cette émission. Merci à Agnès Vaudin pour son aide et son carnet d'adresses. Et merci à Boris Paczynski, bien entendu, l'homme aux doigts de fée. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres livres. Salut.
14h-15h sur Europe 1. La voix est libre. Nicolas Carreau.